Le texte qui a été pris au début, Romains 12, versets 1 à 8, et vous savez quoi? Moi, je vais continuer à partir du verset 9 jusqu'à 21. Et quand notre frère a pris ce texte ce matin et l'a lu, vous savez, en général, on est bien content lorsque les choses concordent. Nous ne sommes pas concertés, et pourtant, il a pris le même passage et il s'est arrêté juste là où je devais continuer par la suite. Que Dieu bénisse son Église. Et ce texte ce matin nous emmène à réfléchir sur un aspect très pratique de la nature chrétienne. Ce que notre frère a lu un petit peu au début, et puis le texte qu'il a pris aussi en Éphésiens, donnait un petit peu un cadre de réflexion, un cadre dans lequel mener nos vies. Dans le cadre où vivre l'Église. Parce que dans un premier temps, il donne des instructions. Nous réfléchissons aujourd'hui au modèle d'Église que nous pourrions avoir ici et ailleurs d'ailleurs. Lorsque l'Évangile arrive à s'établir réellement dans nos cœurs et que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Une autre manière de dire les choses, c'est de poser la question: qu'est-ce qui caractérise le véritable amour chrétien? Est-ce juste des mots que je prononce? Ou est-ce que, comme Paul montre, je dois agir? Et Paul est sans doute l'apôtre qui a fondé le plus d'églises au premier siècle. Il disait qu'il avait de quoi se vanter plus que n'importe qui. Mais son souci majeur, sa grande passion résidait dans l'authenticité, de la beauté, de l'unité de l'Église que chaque croyant est appelé à vivre. Le prestige de la figure morale de l'Église, vous savez, hein, vous qui êtes né depuis un certain temps, a connu un grand déclin dans la société ces dernières années. On parle même de déchristianisation de la société. Et il devient donc essentiel et même urgent pour nos églises, et en particulier pour l'église biblique baptiste d'Argenteuil, de nourrir et de cultiver la beauté des relations fraternelles dont Paul parle dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Pendant 4 chapitres, du chapitre 12 au chapitre 16 de l'Épître aux Romains, l'un des livres les plus marquants, et vous êtes d'accord avec ça, c'est ce livre qui a provoqué la Réformation au XVIe siècle. Et Paul essaie là de nous aider à comprendre à quoi doit ressembler cette beauté des relations fraternelles qui produirait l'unité. Alors, qu'est-ce qui caractérise le véritable amour chrétien? Je vous propose de lire le reste du chapitre, à partir du verset 9. Romains 12, verset 9. Et je lis: que l'amour soit sans hypocrisie. Aïe. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermes, fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ici, notre passage, me semble-t-il, répond à cette question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui caractérise le véritable amour chrétien en trois étapes? Paul commence par poser les principes de base qui sont l'amour sincère et la passion pour le bien. Il continue en montrant à quoi ressemble un amour qui agit dans l'Église. Et ensuite, il explique comment vivre l'amour dans un monde en détresse et empreint de méchanceté. Alors, on commence par le premier, les principes, l'amour sincère. Verset 9, il commence un peu brutalement quand même. Que l'amour soit sans hypocrisie, point. C'est une phrase que je trouve dure pour commencer à parler du véritable amour chrétien. Mais c'est parce que le sujet est hautement important aux yeux de Paul. Pourquoi dit-il cela? Certainement que Paul suppose ici qu'il y a un amour, une manière d'exprimer l'amour, de sorte qu'il ne soit pas sincère. Et d'ailleurs, certaines traductions ont choisi de dire les choses comme ça. Que l'amour soit sincère. Mais ce que j'aime dans l'expression « sans hypocrisie », bon, mis à part le fait qu'il correspond bien au mot grec « an hypokritos », c'est l'image qu'il y a derrière. À l'origine, l'idée, c'est celle de l'absence de masque. Le masque que portait l'acteur dans les théâtres antiques servait à cacher l'identité de l'acteur derrière le personnage qu'il jouait. Et dans la Grèce antique, l'acteur, c'est le hypocritos, ce qui signifie littéralement celui qui porte un masque. L'acteur joue un rôle, il porte un masque. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre deux formes. Agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres faiblesses. Et ça, Jésus n'a pas arrêté d'invectiver les pharisiens pour cette raison. Bande d'hypocrites, race de vipères, leur disait-il. Et Paul nous dit qu'il y a des manières de vivre l'amour qui s'apparente à un amour de façade, une expression d'amour qui ne serait pas sincère, qui ne serait qu'hypocrisie. Nous savons dire lorsque l'amour n'est pas sincère. Cette sorte d'amour que nous essayons de faire passer pour ce qu'il n'est pas. Vous avez sûrement dû trouver un bijou un jour dans la rue ou que sais-je encore, en pensant que c'était de l'or, alors que c'était du plaqué. Et comment faites-vous pour savoir si c'est de l'or? Soit vous mordez dedans, soit vous frottez contre une surface abrasive. Et à notre grand désarroi, on se rend compte que ben, ce n'est que du plaqué. Lorsque l'amour est vécu avec hypocrisie, c'est l'impression qu'on a. On a l'impression d'être dupé, d'être trompé. Parce que ce qu'on prenait pour l'amour n'était pas de l'amour. Eh bien oui, nous savons dire lorsque l'amour n'est pas sincère. Et Paul nous invite à nous débarrasser du genre d'amour qui serait un point d'hypocrisie. L'amour, la miséricorde, les compassions, nous le savons, ils viennent de Dieu. Et donc, il est logique que le chrétien soit appelé à démontrer cet amour incarné aussi dans la personne et l'œuvre du Christ. La première épître de Jean, au chapitre 4, verset 16, nous dit que Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui aussi. Comment dirons-nous donc que nous sommes de Dieu si le caractère de Dieu ne se manifeste pas en nous, le croyant? Oui. Qu'est-ce qui caractérise le véritable amour chrétien? Un amour sans hypocrisie. Et il nous demande aussi d'avoir le mal en horreur. Jésus disait, fuyez, fuyez le mal. Même l'apparence du mal. Si vous savez que telle chose aboutira à quelque chose de mauvais, fuyez. Ce n'est pas une preuve de lâcheté. Bien au contraire, c'est une preuve de force, une preuve de sagesse. Deuxièmement, Paul continue en nous montrant l'amour qui agit dans l'Église. Comment cet amour est-il censé agir dans l'Église? Il continue au verset 10 et montre que pour que l'amour soit sincère, sans hypocrisie donc, il doit faire l'objet d'une affection profonde les uns pour les autres. Une affection qui vient du cœur. Nous devons nous porter les uns les autres dans le cœur. Lorsque nous agissons ainsi, Paul dit que notre amour est sans hypocrisie. Parce que l'amour que nous exprimons pour un frère, pour une sœur, sans hypocrisie, eh bien, répondra à cette question, à ce besoin d'unité de l'Église. Vous saviez bien à quoi ça ressemble d'arriver dans un lieu et de sentir le poids d'une atmosphère lourde et pesante. Les enfants, ils savent très bien reconnaître lorsque papa et maman se sont disputés dans la maison. Ils n'étaient pas là, mais ils rentrent dans la maison, ils sentent une tension. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Bon, ils ne posent pas de questions, mais ils savent. Ils savent. Lorsqu'un étranger vient parmi nous et puis qu'il rentre dans l'église, il saura dire s'il y a de l'amour ou pas. Rien qu'en vivant quelques minutes parmi nous. Si vous venez chez moi, vous saurez s'il y a de l'unité ou pas. Si je vais chez vous, je saurai. L'amour se voit. L'amour se démontre. L'amour se vit. Et si l'amour n'est pas là, si l'amour est absente, vous saurez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de pas normal. Et vous savez, l'affection est une notion qui fait appel à des émotions. Et pour nous qui essayons d'être sérieux théologiquement parlant, je trouve parfois que nous méprisons cet aspect de la nature humaine, les émotions. Mais Paul ne le fait pas ici. Il allie bonne théologie, la bonne doctrine, avec le caractère émotionnel du croyant. Il ne dit pas simplement aimez-vous les uns les autres. Il dit de le faire en étant plein d'affection les uns pour les autres. Et le terme que Paul utilise ici, c'est Philadelphia. Vous connaissez, hein? Il s'agit d'une affection fraternelle, celle qu'on trouve au sein d'une famille, par exemple. Et l'accent est mis ici sur la réciprocité. Je t'aime, tu m'aimes, je te fais du bien, tu me fais du bien parce que je veux ton bien et parce que tu veux mon bien. Beaucoup de croyants vont au culte avec l'idée de recevoir quelque chose. On veut toujours recevoir. En plus, on veut recevoir beaucoup. Mais on donne très peu. Qu'êtes-vous en mesure de donner? Que sommes-nous en mesure de donner lorsque nous venons au culte? Que sommes-nous prêts à partager? Il est intéressant de voir, Paul le soulignait ici, parce que cela va à l'encontre de la pensée du monde. Dans le monde, vous le savez bien, on se sert des autres pour arriver à son but. Quitte à écraser les plus petits que soi. Mais en aucun cas, on peut caractériser cela d'amour chrétien, d'amour authentique. Aimer en étant plein d'affection implique que je vais aimer non pas parce que tu me seras utile ou parce que je pourrais obtenir quelque chose de toi, mais parce que nous sommes frères et sœurs d'une même famille. Nous sommes frères et sœurs d'un même Père, ce Père céleste. Lorsque nous ne manifestons pas de l'amour pour les uns et pour les autres de cette manière, nous nous éloignons de la réalité de l'Église et nous affichons un amour de façade. Dieu ne nous a pas aimés d'une manière égoïste, lui. Il a aimé sans retenue. Il s'est montré vulnérable. Il s'est donné sans réserve. En payant un grand prix. En payant un grand prix. Et tout ça pour faire alliance avec nous. Et cela, nous le voyons à la croix. Avec la croix, nous voyons ce que l'amour est vraiment. L'amour est don. Don total. À la croix, nous voyons à quoi ressemble la réalité. Nous voyons la laideur du péché, oui, mais la puissance de la grâce. La grâce qui communique le salut. La deuxième partie du verset 10 jusqu'au verset 13 montre que la vie chrétienne est un écosystème dans lequel toute chose ou tout ce que Paul mentionne, toutes ces choses sont reliées. Je ne peux pas être fervent d'esprit, par exemple, ou me réjouir en espérance, ou encore être patient dans l'affliction si je ne contribue pas à pourvoir aux besoins des saints, ou si je n'ai pas le désir d'exercer l'hospitalité. Parce que tout ceci est imbriqué dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la manière de témoigner de l'amour. Je ne peux pas choisir ce que je veux dans la parole de Dieu. Tout est imbriqué. Je ne peux pas prendre et laisser le reste. Tout ce que Paul présente ici, ce ne sont pas des choix possibles. Non. C'est un lot, c'est un package. Et je dois tout prendre. Tous ces éléments rendent une résonance sur la manière dont je vais aimer mes frères, dont je vais aimer mes sœurs. Et lorsque nous laissons l'Évangile nous transformer, nous réformer, réformer nos mentalités, notre vision de l'Église, nous pouvons témoigner d'un amour authentique, un amour sincère, sans hypocrisie, un amour qui reflète celui de Dieu. Vous savez quoi? Les opportunités ne manquent pas que nous puissions témoigner de l'amour, du vrai amour, de l'amour chrétien, celui que Dieu nous demande. Dans le cas de l'hospitalité, ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer. Et peut-être que nous ne voyons pas l'importance. Malheureusement, nous vivons à une époque où on prône l'individualité à fond. Je suis moi, chez moi, avec ma famille à la limite, dans mon petit cocon. Et c'est très bien comme ça. À l'époque de Paul, on ne pouvait pas imaginer vivre comme ça. On ne pouvait pas imaginer. L'hospitalité était d'une très haute importance. Et c'est comme ça que Paul a pu, lui, œuvrer à sa mission. Parce que c'était les frères et les sœurs qui l'accueillaient chez eux. Lorsqu'il se déplaçait à Colosse ou que sais-je encore, il allait chez des gens, pas à l'hôtel. De toute façon, ça serait une aberration de savoir que j'ai un frère dans telle ou telle ville qui peut m'accueillir, et je vais dépenser de l'argent à l'hôtel. Et l'amour fraternel dans tout ça. Pratiquer sans cesse l'hospitalité, dit-il au verset 13. L'Épître aux Hébreux en parle au chapitre 13, verset 2, en disant ceci, « Grâce à elle, l'hospitalité, sans le savoir, certains ont accueilli des anges. » Quelle belle aventure! Et Matthieu 25 le présente comme l'accueil de Jésus-Christ lui-même. Ce que vous faites à l'un des plus petits, vous le faites à moi également. Se réjouir à cause de notre espérance est un autre exemple de la manière dont les chrétiens doivent se comporter, s'agissant de leur attitude vis-à-vis du futur. Et notre frère l'a rappelé tout à l'heure en disant que notre monde est troublé en ce moment. Et nos jeunes qui grandissent, alors si vous êtes jeune comme moi, j'ai été plus jeune à mon époque, on a du mal à se projeter. Il y a une époque où je me demandais vraiment, vraiment, est-ce que j'allais me marier? Parce que étant marié, bon, j'aurais voulu avoir des enfants. Est-ce que j'allais mettre au monde des enfants dans un tel monde? On leur laisse quoi à nos enfants? Ce monde leur offre quoi concrètement à nos enfants? Des pays en guerre? Des mœurs débridées? Mais Paul nous propose une posture différente, avoir un regard d'espérance sur le monde, malgré le trouble qui se trouve dans le monde, malgré les débats qui règnent dans le monde. Il nous propose d'avoir une attitude d'espérance, de voir le futur autrement que la façon dont le monde le voit. Avec une attente de voir le Seigneur agir dans ce monde. Ceci devrait être la posture du croyant. Alors oui, peut-être que l'avenir paraît sombre en ce moment. Et peut-être que les citoyens français souffriront dans un futur proche ou lointain, que sais-je, peut-être dans quelques années. Regardez comment on a du mal à composer un gouvernement. Mais combien d'entre nous prennent conscience que les choses se déroulent exactement comme Dieu l'a prévu, aussi perturbant que ça puisse être? Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Et l'assurance du chrétien, c'est de savoir que Dieu a notre avenir entre ses mains. Et ce qu'il dit, c'est ce qui se fera. Rien d'autre. Alors oui, il nous appelle à vivre un amour sincère, un amour sans hypocrisie. Et puis dans la suite, troisièmement, l'amour dans un monde de détresse et de méchanceté. Comment vivre ça? Je le disais la dernière fois, le monde connaît des troubles, des guerres, des bruits de guerre, bouleversements climatiques qui entraînent des catastrophes en cascade. Et on le voit. Sécheresse par-ci, inondation par-là, feu de forêt ailleurs. Et vous savez quoi, la Martinique a même emboîté le pas à la Guadeloupe. En 2009, on a fait notre révolution, notre petite guerre contre la vie chère. Là, c'est autour de la Martinique. Et ces situations plongent les hommes et les femmes dans de grandes incertitudes. Qu'adviendra-t-il de demain? Des tensions qui génèrent du stress, des souffrances. Mais en dépit de tout cela, le Seigneur ressuscité ne manque pas d'intervenir. Il y a toujours un petit rayon de soleil qui arrive à percer les nuages sombres de la vie. Et nous les croyants, nous avons besoin d'être attentifs à ce que Dieu voudrait que nous fassions dans ce monde qui tombe en ruine. Que pouvons-nous apporter à ce monde? Paul semble dire qu'il n'y a pas que dans l'Église que les chrétiens doivent témoigner de l'amour. Il n'y a pas qu'envers les frères et sœurs que nous devons refléter l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, oui, mais il n'y a pas que dans l'Église. Lorsque nous côtoyons les gens du monde, il est aussi de notre devoir d'exprimer un amour authentique, un amour sincère, vrai, sans duplicité. Et voici un exemple de l'attitude que Paul nous demande d'avoir au verset 14. Selon lui, nous sommes censés demander la bénédiction de Dieu pour ceux qui nous persécutent. Aïe. Voilà une demande qui va vraiment à l'encontre, à contre-courant de ce que nous pouvons voir dans notre société. Et sur ce point, Paul est en accord avec les enseignements de Jésus lors de son sermon sur la montagne, Matthieu 5. Il en est de même en ce qui concerne la sympathie pour les autres dans leur joie, dans leurs épreuves. Oui, si je sais que ma voisine a perdu un être cher, perdu son mari ou perdu un de ses enfants, je me dois, moi son voisin, de lui exprimer ma compassion, ma sympathie. Ce n'est pas qu'aux chrétiens ou à nos frères et sœurs. Dans la pensée de Paul, nous glorifions Dieu lorsque nous agissons de cette manière. Même en présence des incroyants, même en présence de ceux qui nous persécutent. Nous glorifions Dieu lorsque nous partageons aussi bien les larmes des personnes que leur rire. Parce qu'il dit pleurez avec ceux qui pleurent, mais réjouissez-vous aussi avec ceux qui se réjouissent, et pas qu'avec les chrétiens. Nous glorifions Dieu lorsque nous demandons à manger et à boire, ou lorsque nous donnons plutôt à manger et à boire à nos ennemis. Le bonhomme, il ne m'aime pas, mais donne-lui à manger quand même. Donne-lui à boire. Dans l'Ancien Testament, il était dit, si l'âne de ton voisin était tombé dans le caniveau, arrête-toi, il va sortir l'âne de son caniveau. Ne te tiens pas là et puis dire c'est bien fait. Non, ce n'est pas la posture du chrétien. Chose qui m'a toujours frappé avec le roi David, c'est lorsque Saül passait par des difficultés, alors que Saül a tenté à maintes reprises de le tuer. Eh bien, lui aussi, il était malheureux. Lui qui ne voulait pas poser sa main sur loin de l'Éternel. Alors qu'il se savait loin lui-même, destiné à prendre la place de Saül. Mais il disait, non, cet homme-là, je ne le touche pas, même s'il veut me tuer. Je me suis fait une réflexion en me disant, vous vous rendez compte, la grande majorité de nous, les chrétiens, vivons en appartement. Combien de fois avons-nous partagé un repas avec notre voisin de palier, ou le voisin du dessus, du dessous, d'à côté? Combien Combien de fois avons-nous proposé une rencontre avec ces personnes-là? En fait, comment envisageons-nous d'exprimer l'amour de Dieu autour de nous? Comment? Paul nous dit comment dans ce texte de Romains. Il nous demande de l'exprimer avec sincérité, avec, en tout cas sans réserve, sans hypocrisie. Alors que Dieu nous aide et qu'il nous vienne en aide afin que nous vivions cet amour authentique à laquelle nous sommes ou auquel nous sommes appelés. Avec nos frères et sœurs chrétiens, oui, mais aussi avec les inconvertis que nous côtoyons tous les jours et parfois même plus souvent que nos frères et sœurs chrétiens. Parce que ce sont de potentiels citoyens du royaume de Dieu. Le potentiel, oui. Seulement si nous acceptons de leur communiquer le véritable amour, celui qui soit sans hypocrisie, sans arrière-pensée, entier, comme le Seigneur Jésus l'a fait avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.